Voilà, rebonsoir à tous. J'ai bien lancé l'enregistrement, donc on peut démarrer cette première séance, en tous les cas la deuxième partie de cette première séance. Je vais d'abord partager, je le ferai habituellement, partager le premier texte qui est l'argumentaire. Donc j'espère que vous allez le voir. Voilà, c'est l'argumentaire que vous avez en papier aussi. Alors ça, c'est pas le bon. Alors, excusez-moi, mais voilà, on va recommencer. Excusez-moi, une petite opération technique là que j'ai fait mal, probablement. Voilà, ce que je veux, c'est cet argumentaire-là. Donc, partager. Partager. Est-ce que, alors, excusez-moi, mais on va essayer d'y arriver cette fois-ci. Voilà. Je pense que là, vous avez le premier document qui s'appelait l'argumentaire, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est bon? Bien. Donc, ce premier document, je le présente en une seconde ou quelques secondes simplement. Premier cours du CIF, donc qui est à la fois introduction à une réflexion et à une première approche de la théologie, à comprendre, comme je viens de le dire, comme intelligence de la foi, hein, pas seulement la foi vécue et expérimentée, mais aussi la foi pensée, réfléchie, et qui peut être exprimée, dite, transmise. Et les grandes questions qui vont présider à ce trimestre peuvent être celles-ci, hein, c'est qu'est-ce que signifie que croire? De quel Dieu parle la foi chrétienne? Selon quelle médiation la rencontre entre Dieu et l'être humain est-elle possible? Voilà, c'est une grande ligne, mais bien sûr, il faudra rentrer dans le détail. Vous avez là un plan, un programme prévisionnel en fonction des dates, comme vous le voyez, qui reprend les principaux thèmes, les principaux items de chaque séance. Voilà, il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Le seul élément sur lequel il faut que je m'éternise, c'est la chose suivante, c'est que il n'y a pas de cours, bien que la promesse du CIF, c'est soit qu'on soit dans les vacances scolaires, qu'on respecte les vacances scolaires. Je suis tout à fait confuse, mais je ne respecte pas les vacances scolaires exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cours le 3 novembre, mais en revanche, on a une séance qui est dans les vacances de tout ça, le 20 octobre. Donc, toutes mes excuses, mais il y a un problème d'agenda qui me contraint à faire cela. Alors, ceux qui ne peuvent pas, parce que le 20 octobre, ils seront pris à autre chose, comme vous l'avez compris, le cours est enregistré et donc est mis à disposition sur la plateforme, le site, donc il est accessible dans ce sens-là. Donc, ce changement auquel je vous contrains, vous pouvez quand même le détourner avec l'écoute. Donc, vous avez ici, jusqu'au 15 décembre, nous avons 10 séances donc. Et dans ce même document, une très très brève bibliographie sur trois thématiques en fait, introduction au catholicisme, introduction à la théologie, et aux trois auteurs contemporains, enfin Bernard Cesbou est décédé il y a quelques années maintenant, mais contemporains, donc sur le catholicisme et la théologie, sur le thématique de révélation et foi, Henri de Lubac, un texte, un livre et un article, et puis Théobald, jésuite, Lubac est un jésuite, était un jésuite, il est mort en 91, 1991. Christophe Théobald enseigne actuellement au Centre Sèvres, aux facultés de Loyola, et puis Doré, Joseph Doré qui revient ici, et puis une référence sur un thème sur lequel on s'expliquera en temps et heure, le rapport entre écriture, tradition, magistère, une référence qui est donc de Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Certaines pages voilà. C'est bien d'avoir une bibliographie, mais en même temps, j'aurais envie de vous dire, ne soyez pas tout de suite obnubilés par la lecture d'un livre ou quoi. Vous avez déjà les documents, les supports de cours, vous avez le travail du groupe. Bon, c'est là où situe la priorité. Après, bien entendu, il faut lire en théologie, ça veut dire il faut s'intéresser à ce que d'autres ont dit, écrit, mais c'est peut-être pas l'urgence numéro un. Mais vous avez quand même une petite bibliographie. Donc j'arrive immédiatement à la première séance qui sera plus courte que les autres, qui seront de 2 heures, et je partage maintenant le deuxième document que vous avez. Alors, il faut que je le recharge là. Encore une petite seconde de manipulation. Voilà. Voilà. Et voilà, peut-être comme ça. Partage d'écran. Et voilà. Partager. Voilà. Donc, c'est le tout premier document pour cette soirée. Donc, présentation, participants, cours, plan, etc. Je veux réfléchir en trois points, en trois temps, mais trois points pour ce qui est de ce soir. Vous en voyez les grands thèmes. Premièrement, un Dieu qui parle et désire se faire connaître. Il va falloir expliquer ses formules, bien sûr. Deuxièmement, les réponses humaines, que je qualifie tout de suite, toujours entre recul et acceptation. Et puis troisièmement, toujours penser la manifestation de Dieu comme les réponses humaines en contexte. On en a dit un mot déjà il y a quelques minutes. Révélation et réponse ne sont pas hors sol. Et l'un d'entre vous ajoutait ni hors temps. Il a entièrement raison. Donc je l'ajoute. Merci. Ni hors sol, ni hors temps. Voilà les trois points que je voudrais développer relativement rapidement pour ce soir. Le premier point, donc, un Dieu qui parle et désire se faire connaître. Alors, vous l'avez noté certainement, le titre de notre semestre, trimestre, pardon, c'est le suivant, c'est ce qui est mis en première ligne, comment Dieu se manifeste-t-il à l'homme? Une telle formule, une telle manière de poser la question, tout de suite, invite à quelques remarques. Le sujet, l'acteur de cette phrase, c'est Dieu. Donc la question n'est pas comment l'homme recherche-t-il Dieu? L'homme, l'être humain, hein, s'entend bien. Ce n'est pas quels sont donc les efforts que nous avons à faire de spiritualité, d'ascèse, d'études, quels sont donc les efforts que nous avons à faire pour trouver Dieu? Ce n'est pas ça la question. Alors, ça ne veut pas dire que cette question est nulle, attention. Elle n'est pas ni spiritualité, ni ascèse, ni études. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais il n'empêche que le propos, hein, de ce trimestre, et donc l'axe, c'est d'abord comment Dieu agit. Donc il y a une supposition ici une double supposition même, qui est assez forte ici. C'est un, que Dieu agit, Dieu se manifeste, c'est un verbe d'action, et se manifeste, un verbe réflexif. Et puis il y a une deuxième supposition, c'est qu'il y a une possibilité de le voir se manifester. Il y a une possibilité pour l'être humain de voir quelque chose, de repérer quelque chose. Donc une double supposition qui est qu'on pourrait reformuler en disant Dieu vient à la rencontre de l'homme, un Dieu qui parle et désire se faire connaître. Voilà, déjà ça s'éclaire peut-être un peu. En somme, on est devant l'hypothèse d'un Dieu qui vient à la rencontre des humains et qui a pris la décision, si on peut dire, de s'approcher des humains. Alors, vous entendez que rien que c'est une petite phrase comme ça, suppose, induit une définition de Dieu. Alors, définition de Dieu, voilà une phrase impossible, n'est-ce pas? Mais induit une compréhension, quelque chose de la compréhension du Dieu dont on parle, en christianisme, s'entend bien, tout à fait particulière. Rappelez-vous ce que vous avez appris dans la mythologie grecque, romaine, égyptienne, enfin tout ce que vous voulez, ou n'importe que, ou même des mythologies plus lointaines que celle-là. Les dieux sont loin des hommes. C'est quasi un pléonasme de dire ça, hein? Par définition, ce qu'est un dieu, c'est d'être loin des hommes, pas comme les humains. Et ce qui va être supposé dans de nombreuses religions, c'est une série de pratiques, souvent de sacrificiels, hein, une série de pratiques qui consisteront à s'approcher du divin, à obtenir les faveurs du divin. La prétention chrétienne est de dire que ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec le vrai Dieu, hein, le Dieu chrétien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas d'abord des efforts à faire pour obtenir les faveurs de Dieu, des dieux. C'est D'abord, être capable, se mettre en disposition de reconnaître que Dieu se fait proche, se manifeste et se fait proche. Il y a quelque chose là qui est extrêmement différent, on va dire, de probablement la plupart des autres religions, et qui va typer complètement le christianisme. Un Dieu qui a l'initiative de la rencontre, qui se fait proche. Ça, c'est juste en commentant le titre. Comment Dieu se manifeste-t-il à l'homme? Voilà, le sujet, c'est bien Dieu, l'acteur, hein, l'initiateur, comme vous voulez, on peut dire tous ces mots-là. C'est bien lui. Et ce à quoi il a l'initiative, c'est de la rencontre. Se rapprocher, se manifester et se rapprocher de l'être humain. Donc, on ne va pas en théologie d'abord chercher les moyens qui, par nos propres forces, nous obtiendraient les faveurs du divin. On va plutôt examiner comment est-ce que Dieu se rend proche. Et pour ça, on va considérer qu'il y a des signes. Il y a des signes par lesquels Dieu se manifeste. On peut voir, hein, un Dieu qui vient à la rencontre. On peut voir. On peut voir quelque chose. Oh, les humains, hein, les êtres humains peuvent voir quelque chose. Alors, pour essayer de commenter cela, dans ce Dieu qui est premier, hein, qui est le premier à prendre l'initiative, pour commenter cela, je vais prendre deux textes, hein, deux textes bien connus, je pense, mais voilà, deux textes de la Bible, en les considérant en fait comme l'examen, porter attention à la manière dont d'autres, c'est-à-dire les auteurs bibliques, vous avez entendu mon pluriel, hein, les auteurs bibliques parlent, disent quelque chose d'un Dieu qui se fait proche et qui vient à la rencontre des humains. Alors, le premier texte, je pense, assez bien connu, c'est dans le livre des rois, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre, premier livre des rois, au chapitre 19. C'est l'histoire d'Élie. Donc, je le lis et je le commente au fur et à mesure que je le lis. Vous l'avez à l'écran, vous l'avez sur votre papier, donc voilà, et puis vous l'avez peut-être aussi un peu en mémoire. Devant cette menace, alors il y a menace pour Élie, ça veut dire il est en train d'être en conflit avec le pouvoir et le pouvoir religieux de son moment, et il est obligé de fuir. Donc devant cette menace, ils veulent le tuer, naturellement. Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Donc il y a une question de vie ou de mort ici. Arrivé à Beersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort. Donc on est vraiment devant une question de vie ou de mort. En disant, maintenant Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il s'étendit sous le buisson, s'endormit. Voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Manger, c'est vivre, hein, nous le savons. Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but, se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Donc vis, réveille-toi, hein. Lève-toi et mange, car il est long chemin qui te reste. Élie se leva, mangea, but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Vous entendez ici, hein? Il marcha jusqu'à la rencontre, le lieu de la rencontre. Là, il entra dans une caverne, il y passa la nuit, et la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, la parole du Seigneur, l'ange, que fais-tu là, Élie? Élie répondit, j'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. Donc on est bien toujours dans la même histoire qu'au début, il y a une menace, et ce qui est en question, c'est la vie d'Élie, que ses adversaires, les fils d'Israël, veulent éliminer. Voilà la situation. Donc, on n'est pas devant une situation intellectuelle, vous voyez. On est devant une situation de vie ou de mort, sous plusieurs angles, hein, sous l'angle des ennemis qui veulent le tuer et sous l'angle de je veux plus manger, je veux plus boire, donc je me laisse mourir. C'est plus possible de vivre dans ces conditions. Bon. Alors, à partir de là, que se passe-t-il? Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. Alors, c'est ça, c'est ce récit-là qu'on connaît bien, qu'on connaît plutôt. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort, si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Je suspends un instant la lecture ici, en montrant bien que tout ce qui est décrit ici, que ce soit l'ouragan, le tremblement de terre, le feu, ce sont des actions violentes, mais qui surtout s'imposent. On débat pas de savoir si c'est un ouragan ou pas un ouragan. Ça s'impose et souvent ça nous tue en plus, ou ça fait beaucoup de désastres. Donc, un Dieu qui s'imposerait dans la violence, ben c'est pas ça. Le Seigneur n'était pas dans l'ouragan, le tremblement de terre, le feu. Après ce feu, le murmure d'une brise légère. Alors, en note, vous avez toute la difficulté de traduction de cette formule-là qui est là. Peut-être qu'on peut dire, pour aller droit au but, si je puis dire, que la traduction la plus mot à mot, c'est le bruit d'un fin silence. Donc, la réaction normale, c'est de dire ça ne veut rien dire. Il y a du bruit ou il y a du silence? C'est un oxymore, comme on dit dans formule poétique. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que non seulement c'est pas dans la violence de l'ouragan, du tremblement de terre, du feu que Dieu se manifeste, c'est dans quelque chose de délicat, mais qui en plus est difficile à comprendre, parce que le bruit d'un
Oui,
silence,
j'ai l'index sur l'écran.
le bruit d'un silence, c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est, naturellement. Donc, vous voyez, ça se joue à deux niveaux. Ça se joue au niveau de la violence, Dieu n'est pas dans la violence, et dans le fait de s'imposer dans sa manifestation, de sorte qu'on puisse que dire, bah ouais, d'accord, ok. Donc il n'est pas là, mais il est aussi dans quelque chose qu'on peut très très bien ne pas
Mais
du
c'est
tout
comme
voir.
ça, intéressant.
Le bruit d'un silence, voir ou entendre en l'occurrence plutôt, le bruit d'un silence, c'est quelque chose qu'on peut vraiment rater. On peut passer à côté, comme on dit. Non. Élie ne le rate pas, verset 13, aussitôt qu'il entendit ce bruit de fin silence, ce murmure d'une brise légère, il se couvre le visage avec son manteau. On ne peut pas voir Dieu, hein. Se couvre le visage avec le manteau, donc il reconnaît que c'est Dieu, c'est ça que ça veut dire, hein, se couvrir le visage avec son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne, voilà, et la rencontre. Donc vous voyez, premier texte que je commente vite, hein, bien sûr, mais premier texte nous disant quelque chose de la manière dont d'autres nous parlent, dans l'Ancien Testament en l'occurrence, de ce qu'il en est de Dieu qui vient à la rencontre des hommes, ici d'Élie en l'occurrence, c'est que c'est une question de vie ou de mort, donc c'est pas anecdotique, hein. C'est une question de vie ou de mort, et que Dieu
Lui,
n'est
je ne
pas
connais
là où
pas.
on
Il a
l'attend,
tout
là où on le
fait.
prévoit, il n'est pas dans la violence, dans ce qui s'impose, mais il est dans quelque chose qu'on pourrait presque, probablement, bien souvent, ne pas voir. Deuxième texte que je propose à votre réflexion ou au commentaire de ce soir. C'est un texte qui, cette fois-ci, vient du Nouveau Testament. Je vais juste le faire apparaître en totalité, voilà, comme ça. Il vient du Nouveau Testament et il est...
Bon, j'éteins et je recommence.
Alors,
Essayez.
si vous pouvez bien... Certains micros sont ouverts, voilà, merci Stéphanie. Donc, si vous pouvez chacun faire des questions, aucun problème, hein, poser des questions, aucun problème, avec plaisir. Mais quand on n'est pas en question, coupez les micros pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, deuxième texte que je propose à la réflexion pour essayer de comprendre les conditions de cette rencontre suscitée par Dieu lui-même, en christianisme en tous les cas, c'est un texte qui vient du Nouveau Testament, d'une épître de Paul, qui est la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, qui est écrite, vous voyez la date ici, alors ces choses-là sont toujours un peu délicates à dater, hein, donc on donne plutôt une tranche qu'une simple date, donc dans les années 55-57, ce qui veut dire que probablement c'est un des textes les plus anciens du Nouveau Testament, un des premiers textes écrits et qui appartiendra ultérieurement à ce qu'on appellera le Nouveau Testament. Donc un texte, un témoignage très proche des premiers témoins, hein, c'est ça qui est intéressant là. qui est un témoignage quasiment des premiers témoins. Donc c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe, à une église qu'il a, à une communauté qu'il a fondée, et qui en fait pose la question, dans les versets qui précèdent, pose la question de... Enfin, c'est la question de son autorité qui est posée. Mais qui es-tu donc, Paul, pour faire autorité? Donc pourquoi fait-il... à quelles conditions fait-il autorité? C'est ça sa question. Je lis. Allons-nous une fois de plus nous recommander nous-mêmes? Nous recommander nous-mêmes. Je suis excellent. Regardez tout ce que je fais. Ou alors avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation écrites par, pardon, écrites par telle ou telle autorité, justement, qu'il faudrait vous présenter, obtenir de vous. Bon, voilà le problème. Qui va le recommander? Réponse. Notre lettre de recommandation, c'est vous. Il s'adresse à la communauté de Corinthe, vous avez compris. C'est vous. Vous, la communauté de Corinthe. Vous, les chrétiens de Corinthe. Notre lettre, elle est, notre recommandation, elle est écrite dans vos cœurs, dans nos cœurs. Et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. Autrement dit, la communauté est quelque chose qui est visible. Tout le monde peut en avoir connaissance. La communauté, elle est existante. Il y a un petit groupe, même s'il est petit, évidemment, de chrétiens à Corinthe. Donc ce qui recommande Paul, c'est en fait vous, la communauté. Il insiste, verset 3, de toute évidence, vous êtes cette lettre. Il cherche une lettre de recommandation, hein, vous avez compris. Vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère. Donc c'est bien lui le fondateur. Écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas comme la loi sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur vos cœurs. Et si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle. C'est pas lui qui fait le travail, c'est ça que ça veut dire, que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité à faire, vient de Dieu. Lui nous a rendus capables. Vous entendez tous ces passifs, hein, toutes ces formules passives, nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit, car la lettre tue, l'esprit donne la vie. Ce texte est assez étonnant, hein? Ce texte, tout à l'heure, où était Dieu? Où Dieu se manifestait-il? Est-ce qu'il se manifeste dans la violence, la puissance et la domination, ou dans un bruit de fin silence? Et donc, dans quelque chose qui est à... Il faut tendre l'oreille. Hein. Ce deuxième texte nous dit, le signe de la manifestation de Dieu, c'est la communauté. C'est vous. Vous êtes cette lettre de recommandation du Christ. Ce qui est bien visible. Mais soyons clairs, on est dans les années 55-57 à Corinthe, c'est un tout petit groupe de personnes. À la fois c'est bien visible et à la fois évidemment c'est dérisoire. En nombre de personnes, probablement aussi en puissance, en autorité sociale et politique de ces personnes. Voilà, donc la lettre de recommandation c'est vous en tant que communauté, même si c'est dérisoire, tout petit. Hein. À ce moment-là, en tous les cas, très certainement. C'est vous qui êtes cette lettre et c'est vous qui... Vous, la communauté, qui êtes la manifestation, en quelque sorte, non seulement de l'autorité de Paul, mais de la présence de Dieu, de l'action de Dieu qui rend capable, hein, qui rend capable, qui transforme les cœurs de chair en cœurs de pierre. Voilà. Cela dit, ça n'empêche pas qu'il faut constater avec un texte comme celui-ci que Dieu ne fait pas tout. Certainement, il n'y a pas de capacité personnelle, c'est lui qui rend capable. Vous avez vu les choses que j'ai surlignées en jaune. Mais il n'empêche que c'est bien quelque chose qui est une situation, un événement qui est produit par notre ministère, qui est la capacité d'être les ministres d'une alliance nouvelle. Alors, ministre, vous savez ce que ça veut dire? Ministère, ministre, ça veut dire serviteur. Ça ne veut pas dire autorité. Au sens d'avoir le pouvoir, mais ça veut dire d'être dans le service, hein, ministère, ministre. Il n'empêche qu'il y a bien une opération, un acte à poser, que Paul, en l'occurrence, doit poser, qui est d'être le serviteur, le ministre, le serviteur, d'être au service de cette communauté. Donc il n'y a pas rien à faire. À l'instant de ce dernier commentaire et des surlignés verts, je vous ai laissé entendre que Dieu faisait tout, quoi, grosso modo. Dieu était l'acteur et faisait tout. Maintenant, j'introduis, et le texte l'introduit, c'est parce que le texte l'introduit, j'introduis une nuance qui est de dire Dieu est premier, Dieu est souverain, Dieu fait tout, c'est Dieu qui est l'acteur, l'initiateur de la manifestation. Mais non seulement il faut, comme Élie, être capable de se dire ah oui, mais ce bruit de fin silence, c'est Dieu, mais il faut aussi travailler par le service, par le ministère, à ce que la communauté de Corinthe existe, en l'occurrence. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, si c'est bien Dieu qui rend capable, il y a bien quelque chose néanmoins à faire. Donc, on n'est pas dans ou bien c'est Dieu, ou bien c'est l'être humain. Vous voyez, premier cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, acquérir les faveurs des dieux. Ben voilà, c'est l'être humain qui a des choses à faire. Et il faut les faire bien, selon un cadre. Bon, non? Deuxième manière de lire les deux textes que je viens de lire, ça serait de dire Dieu fait tout. Non. Dieu est bien l'initiateur, et bien premier, comme on dit, mais il n'empêche que dans cette action première qui est Dieu à la rencontre de l'être humain, il y a quelque chose du côté de l'être humain qui doit être fait. Donc il y a des signes à voir, autant que possible, à interpréter, qui sont des signes par lesquels Dieu nous parle. Ce qui est autre chose que de dire il y aurait des signes qui parleraient de Dieu. Pas les signes qui parlent en eux-mêmes, c'est Dieu qui parle à travers les signes. Mais bien entendu, enfin vous l'avez compris avec ce commentaire notamment à partir de Paul, il y a des réponses humaines. Il faut des réponses humaines. Dieu peut se manifester, si je puis dire, sans familiarité, si vous me permettez, autant qu'il veut. S'il n'y a pas de réponse humaine, il n'y aura pas de rencontre. Donc, il faut aussi, dans cet événement de Dieu qui vient à la rencontre, Dieu qui se manifeste, c'est ça notre sujet, hein, donc je réfléchis juste à ce titre et j'essaye un peu de poser les paramètres, il faut aussi qu'il y ait prise de position humaine, réponse humaine, et bien entendu, au pluriel, des réponses humaines, qu'ici je vais qualifier entre deux postures, si je puis dire, hein, recul et acceptation. Je m'explique un peu. En commençant par faire ce que j'appelle ici une petite typologie. Les réponses humaines, il y en a des diverses, elles sont variées, et elles peuvent obéir à quelque chose qui peut ressembler à une typologie. Alors, comme toujours dans les typologies, on peut faire plus fin, plus complet, plus... OK. Mais je retiens quatre types. Réponse type, en quelque sorte. Première réponse type, c'est le recul. Et c'est le recul qui n'est pas... qu'il ne faut pas pointer du doigt en disant oh là là, c'est vilain, c'est vilain. Non, 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 non. Il va être raisonnable et lucide. Et c'est notamment dans le texte, dans le récit biblique, on pourrait presque dire que tous les prophètes commencent par dire oh, pitié, pas moi. En fait, c'est ça que disent les prophètes dans l'ensemble. Hein. C'est pour commencer, bah, ça ne va pas se finir comme ça. L'histoire ne se finit pas là. Mais un prophète lucide, de ce qui lui est demandé, commence par dire ah non, non, mais rencontrer Dieu, c'est juste pas possible pour moi. Exemple, Moïse. Moïse qui est envoyé par Dieu, hein, dans le livre de l'Exode, est envoyé par Dieu pour délivrer le peuple, faire sortir d'Égypte mon peuple. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Bah, la première réponse de Moïse, c'est de dire non, 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 je ne peux pas. Ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Qui suis-je? Là, il dit, j'ai des cailloux dans la bouche, je n'arrive pas à parler. Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je ne peux pas. Je vous ai indiqué dans le verset 12 la réponse, que je commenterai dans une seconde. Parce que même situation avec un autre prophète, cette fois-ci c'est Jérémie, J.R., Jérémie. Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Donc conclusion, je ne peux pas être un ton prophète. Je ne peux pas être dans la rencontre et la communication de qui tu es au peuple que tu m'envoies, auprès de qui tu m'envoies. Mais je reviens un instant sur le verset 12 de l'Exode. La réponse de Dieu, c'est pas tu vas être malin, c'est pas je vais te donner des capacités, c'est je serai avec toi. Rien de plus, hein. Rien de moins, naturellement, mais rien de plus. Donc première option, première posture, premier type de la typologie des réponses humaines, être conscient, raisonnable et lucide de l'ampleur de ce que représente la rencontre avec Dieu qui se fait proche, qui vient à la rencontre. Et donc, réaliser, enfin, comprendre cette situation avec, comme le dit le texte biblique, avec crainte et tremblement. Deuxième type de réponse, l'option difficile du changement de vie, c'est-à-dire la conversion, pour employer un vocabulaire plus religieux. L'option difficile du changement de vie. Peut-être l'épisode qui est le plus emblématique, on peut dire, hein, du caractère difficile de ce choix, de cette option, c'est le récit qu'on appelle souvent du jeune homme riche, l'épisode du jeune homme riche, par exemple dans Marc. Je lis. Jésus se mettait en route quand un homme accourut, tomba à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Vous remarquez que c'est encore une histoire de vie, hein? Et pas n'importe quelle vie. Tout à l'heure, Élie était en train de risquer sa vie. Et ici, la question de cet homme, qui va être le jeune homme riche dans quelques minutes, c'est avoir la vie éternelle, autrement dit la vraie vie, quoi. Que dois-je faire? Jésus lui dit, pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Et en toute logique, là, le commentaire à suivre, c'est ce que dit Dieu, tu connais les commandements. Alors voilà la liste, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Presque la liste. L'homme répond, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit, Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Une seule chose te manque. Donc bien entendu, qu'on a appelé ce personnage biblique le jeune homme riche, puisqu'il a ce que tu as, tu le donnes aux pauvres, comme un trésor. Tout ce que tu as, c'est déjà comme un trésor. Mais dans ce trésor, dans ses biens, dans ses choses, il y a un manque fondamental, une seule chose te manque. Donc rien d'autre ne te manque, mais une seule chose. La chose étant, va, vends, donc libère-toi de tout ce que tu as, viens, suis-moi. Voilà ce qui te manque, viens, suis-moi. À ces mots, devint. Lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est souvent intéressant d'imaginer la scène. Il y a des traditions spirituelles qui insistent, de lecture biblique qui insistent beaucoup là-dessus. Un homme qui accourt, qui tombe à ses genoux. Vous voyez la précipitation. Hein, il accourt, il tombe à ses genoux. Il n'est pas dans une petite marche précautionneuse. Et là, maintenant, il s'en va tout triste. Si vous imaginez la scène, encore une fois, vous voyez bien un personnage, comme on dit, qui traîne les pieds. D'un côté, il accourt, il se précipite, il tombe à genoux devant Jésus. Puis d'un autre côté, enfin, une fois le récit passé, il s'en va tout triste, évidemment, dos voûté, etc. Donc dans l'empressement, une résignation en quelque sorte, hein, face à l'empressement de départ. Mais ici, c'est bien l'option du changement de vie, de la conversion. Et une option, ne disons pas que c'est lui, hein, une option qui est difficile pour nous tous, évidemment, et qui consiste à arriver à désigner ce qui manque vraiment. Quand on a tout, puisque le jeune homme riche, par définition, il a tout, en tous les cas, tous les biens, qu'est-ce qui manque vraiment? Et pourtant, il pose la bonne question, hein, avoir la vie éternelle en héritage. Que dois-je faire pour cela? Donc, typologie des réponses humaines courir et s'en aller tout triste, donc peut-être une posture un peu paradoxale, contradictoire en tous les cas même, on pourrait dire. Et à l'intérieur de ça, la capacité à discerner ce qui manque vraiment. Il peut manquer beaucoup de choses matérielles, hein. On n'est pas tous des jeunes hommes riches, mais c'est pas ce qui est dit là. Une seule chose te manque. Donc, deuxième profil, des réponses humaines. Peut-être pas tant la difficulté à vendre tout que la difficulté à nommer ce qui manque vraiment. C'est nommé, hein? La parole de Jésus le nomme. Suis-moi, deviens un disciple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Troisième figure de ces réponses humaines, accepter. Alors, s'il y a du recul pour avec les prophètes, s'il y a une difficulté à choisir la conversion, ben, on peut accepter aussi. Et accepter la proposition divine, qui est la proposition de la rencontre. Mais même pour Jésus, nous disent les évangiles au cours de la Passion, même pour Jésus, c'est difficile. Je cite ici, on est dans la Passion, on est à Gethsémani, Matthieu 26. S'en allant un peu plus avant, il, c'est Jésus, tomba sur sa face, tomba à genoux, priant et disant: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Vous voyez là, on pourrait presque dire ici le recul. Si j'emploie le mot recul tout à l'heure, je l'emploie peut-être encore ici. Que cette coupe passe loin de moi. Non, pas ça, quoi. Trop dur. Toutefois, non pas ce que tu veux, non pas, pardon, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Donc là, la capacité, la redétermination, la reprise à s'ajuster à la volonté de Dieu. Donc accepter la proposition divine, c'est accepter d'entrer dans la rencontre, dans la volonté de Dieu. Alors là, on est devant l'acceptation maximale, hein, quand il s'agit de Jésus, mais au fond, une des acceptations les plus simples, mais en même temps les plus probantes, les plus évidentes, c'est le service. Et à cet égard, l'Évangile et le Nouveau Testament, disons, est tout à fait clair. Regarde, je lis simplement le verset 21. Voici le commandement que nous tenons de lui. Lui, c'est Jésus. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Parce que celui qui dit, verset 20, j'aime Dieu, je suis dans la rencontre avec lui, alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Donc voilà, le service, la diaconie, est-ce que j'aime au sens de servir, hein, pas au sens banal qui peut être donné au mot amour parfois, mais au sens du service, du souci de l'autre. Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'a aucun souci de l'autre est un menteur quand il dit j'aime Dieu. Ce sur quoi je veux attirer votre attention par cette petite typologie qu'on pourrait bien évidemment compléter, c'est que d'abord il y a des réponses diverses. Il n'y a pas une réponse unique qui serait la bonne et puis rien d'autre. Des réponses. Ensuite, on voit entre elles des progressions possibles. Il n'y a pas ou bien il faut choisir telle posture ou bien telle autre. Ces réponses peuvent être progressives au fil du temps, au fil des lieux aussi. Voilà, des réponses progressives. Donc, les réponses humaines, entre recul et acceptation, dans la liberté, parce que quand Élie reconnaît le bruit de fin silence, il a tout ce qu'il faut pour ne pas le reconnaître, si je puis dire. Il a tous les moyens de ne pas le reconnaître. Donc dans la liberté, et qui sont toujours à déterminer, à redéterminer peut-être même, et qui sont jamais acquises complètement. Hein, c'est peut-être ça que je veux dire quand je dis progressif. J'avance encore un peu et après on prendra un temps de questions ou de débats. Ce qui est quand même la nécessité, donc ce qu'on ne peut pas rater, ce qu'on ne peut pas rater, quelle que soit la diversité des réponses et quelle que soit la diversité des signes à interpréter, c'est de désirer la rencontre. Une seule nécessité, souhaiter, chercher la rencontre avec Dieu. Alors, là, je pense qu'il y a un texte du pape François, un extrait bien sûr, hein, dans le premier texte qu'il a publié au début de son pontificat, qui s'appelle Evangelii Gaudium, hein, exhortation apostolique sur l'annonce de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui, au début de son pontificat, enfin quelques mois, en novembre 2013. Et je vous ai mis ici le tout premier paragraphe, c'est-à-dire l'introduction, on peut dire, hein, de ce. Enfin, quelques phrases, il y a quelques coupures. L'introduction de ce beau et grand texte, dont on peut estimer qu'il était vraiment, rétrospectivement, c'est assez probant, assez évident, qu'il était vraiment le programme que posait le pape François au début de son pontificat, et qu'effectivement, il a tenu au fil de la dizaine d'années. Donc, je lis. Evangelii Gaudium, c'est la joie de l'évangile. Hein. Vous savez, le titre de tous les textes romains, c'est les deux premiers mots en latin. Donc, Evangelii Gaudium. Je lis et je commente en même temps. La joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent. C'est bien de ça dont on parle, Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui. Alors, vous entendez là le passif? Se laisser sauver. C'est pas se sauver à la force du bras. À la force de nos bonnes actions, c'est se laisser sauver. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins, voilà la nécessité, elle est là. Au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Prendre la décision de le chercher chaque jour sans cesse. Tout à l'heure, en commentant l'extrait de la deuxième aux Corinthiens, je vous disais, Dieu est premier, Dieu agit, mais il n'empêche que Paul, comme ministre, a quelque chose à faire. Là, dans cette petite formule là que je viens de surligner, on a, rigoureusement parlant, à la fois Dieu premier qui agit, se laisser rencontrer par lui, c'est lui qui va venir à notre rencontre, mais il n'empêche qu'il faut prendre la décision que cela ait lieu. Donc la liberté est respectée, autrement dit, on peut prendre la décision inverse, tout le temps, toujours possible. Mais il s'agit bien de au moins prendre cette décision. De se laisser rencontrer, de le chercher. Alors, François continue, il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui. Personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, alors voilà, se laisser rencontrer par lui, prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, est un risque. Ce n'est pas du tout quelque chose de cool, comme on dirait aujourd'hui. C'est un risque. Celui qui risque cela, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas, donc voilà, se laisser prendre la décision, c'est un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts depuis toujours, on pourrait ajouter. Donc vous voyez, la typologie que j'ai essayé de dresser rapidement montre la diversité. La variété des postures, des types, mais en même temps montre aussi le maintient l'idée d'un Dieu premier. Mais ce Dieu premier ne s'impose pas, c'est ni l'ouragan, ni le tremblement de terre, ni le feu, qui s'impose par la force. Il ne s'impose pas, c'est au contraire un bruit ténu, un bruit de silence, comme je le disais tout à l'heure, qu'on pourrait absolument rater, qu'on pourrait ne pas voir. Mais qui nécessite tout le temps qu'il y ait une décision. Et on est dans la décision. C'est un mot très fort, hein. C'est pas un sentiment. La foi, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Donc la décision de laisser agir Dieu, hein, se laisser rencontrer par lui, on pourrait dire de laisser agir Dieu. Et ça, c'est un risque. C'est le risque de la rencontre, évidemment. Donc premièrement, J'ai essayé de vous indiquer avec deux textes, un de l'Ancien Testament, un du Nouveau, des signes par lesquels Dieu se manifeste et des signes qui sont subtils, sur lesquels il faut faire un effort de regard ou d'écoute pour les voir. Le bruit de fin silence, ou le silence, le bruit de fin silence et la communauté, la toute petite communauté des Corinthiens en 55. Deuxièmement, je vous ai brossé rapidement quelques éléments de quelques modes de réponse humaines qui nécessitent toujours cette décision de laisser Dieu agir. Et enfin, troisièmement, j'y arrive, cela ne peut pas se faire ou se penser, et se penser, que ce soit la manifestation de Dieu comme les réponses humaines, en dehors des sols et des temps. Donc ce n'est pas ni hors sol ni hors temps. On est toujours en contexte. Tout à l'heure, je disais, on est toujours en culture. On est toujours dans des cultures. Et je pense que ça, c'est vraiment un acquis du XXe siècle. De comprendre, d'avoir compris combien l'expression de la foi, donc la rencontre entre Dieu et les êtres humains, et donc fondamentalement la manifestation de Dieu, le Dieu éternel, hein, bien sûr, est toujours pour des hommes qui sont, pour des humains qui sont dans des lieux et des temps. D'où l'importance, enfin l'urgence même, je dirais, d'arriver à qualifier ce qui est notre lieu et notre temps. Quel est notre lieu? Quel est notre sol? J'ai posé cette question-là et auquel on peut ajouter quel est notre temps? Comment qualifier notre moment? Autrement, on risquerait de rater la rencontre faute d'avoir compris où et quand, où et comment ça se passe. Alors, c'est très complexe. Enfin, ça, pour le coup, je suis persuadée que vous le savez. C'est très complexe d'arriver à qualifier notre moment. Qualifier le moment présent est probablement être capable de dresser le diagnostic du moment présent est probablement une des choses les plus délicates d'aujourd'hui. Tout à l'heure, l'un d'entre vous insistait sur la situation de l'Europe, et de la France plus particulièrement, probablement du monde catholique, enfin des catholiques. Je pondérais ça, mais sans en faire un satisfecit, évidemment. Je pondérais ça avec une situation plus mondiale, mais on voit bien que ce diagnostic de situation, c'est vraiment un élément difficile à porter. Mais on a besoin de le faire. Et ici, je fais référence à un collègue de la Catho de Paris, dans un texte qui a déjà quelques années maintenant, mais qui a le mérite de brièvement, vous voyez, c'est en quelques lignes, enfin une dizaine de lignes, quinzaine de lignes, de typer un peu les moments. Je lis ce qu'il a écrit ici, je le fais mien, bien sûr. Notre époque est souvent qualifiée de postmoderne. Ce qualificatif est complexe à comprendre. Et pour le comprendre, peut-être faut-il partir de la triade, je ne suis pas sûre qu'elle soit fameuse, mais de la triade tradition, modernité, postmodernité. Et nous sommes, si on cherche à qualifier le moment présent, nous ne sommes pas dans ou bien la tradition, ou bien la modernité, ou bien la postmodernité, on est bien dans un mélange des trois. Et ce qui fait qu'on peut avoir telle attitude ou tel comportement ou tel commentaire qui relève d'un geste moderne, et puis qui est contrebalancé par un geste qu'on va qualifier plutôt de tradition, et contrebalancé encore, ou complété, ou déplacé par un geste qu'on peut appeler postmoderne. Et nous sommes tous pris, consciemment ou pas, hein, ça n'a pas d'importance, dans cette triangulation, si on peut dire, hein, ces trois positions, où à la fois nous sommes des modernes, à la fois nous sommes des traditionnels, je ne dis pas du tout traditionnalistes, hein, des traditionnels, et à la fois nous sommes toujours aussi des postmodernes. Alors c'est quoi? La tradition, c'est... Alors il y a des images, donc je vais passer les images. C'est une époque de stabilité. Voilà, c'est la stabilité. Et qui n'aime pas la stabilité tout de même? Ça, c'est la tradition. On a de puissantes racines qui sont capables de s'élever haut vers le ciel. On est orienté, on va vers le ciel. La modernité, c'est un temps où l'esprit critique, le débat, mais tout en question, tout en mouvement. À ce moment-là, on est non plus en stabilité, mais on est en orientation vers le futur. C'est la notion de progrès, vous savez. La notion de progrès, c'est la modernité. Mais on n'en est plus exactement là, même si on y est toujours, naturellement. Nous sommes aussi en post ou ultra, peu importe, hein, modernité. Ce qui veut dire que c'est le moment où le principe critique a tout gagné. Mais ce principe critique qui a tout gagné fait que nous sommes dans une époque de manque de points de repère. Il n'y a plus de points de repère. Tout est possible. Bah, tu peux bien le faire puisque tu en as envie. Fais comme tu veux. Ah, oh, ben, t'es bien libre. Vous entendez ces phrases-là? On les dit quotidiennement, hein, si je puis dire. Mais ce qui fait que ce manque de points de repère fait qu'il n'y a plus d'autorité, d'autorité indiscutable. Donc, on est dans une précarité qui consiste à maintenir des équilibres. Donc, vous voyez, alors qu'on est orienté, stable, orienté, ici, on a un problème d'équilibre. Je passe les exemples qu'il donne, qui est fin de l'enracinement et de la stabilité, l'ère du réseau, de la mobilité nomade, qui est sans orientation, hein, orientation. Donc, vers le ciel, et nous y sommes, toujours, nous aussi. Vers le futur, et nous y sommes, bien sûr, et en même temps, sans orientation. Je trouve qu'en peu de lignes, il y a un diagnostic du moment présent, qui évidemment est complexe, parce qu'on se dit, mais comment on peut être à la fois stable et en équilibre? Comment est-ce qu'on peut avoir un esprit critique et pas avoir de point de repère? On voit la complexité, mais qui en même temps, me semble-t-il, décrit brièvement, tout de même, assez bien le moment présent. Mais pourquoi décrire ce moment présent? C'est bien pour penser dans un sol et dans un temps, dans un lieu et dans un temps, dans des contextes donnés, contexte on pourrait mettre un S, la décision prise de toute éternité par Dieu de se manifester et les lieux et les temps où les réponses humaines peuvent se déployer avec leur diversité, voire leur complexité, telle que j'ai pu le décrire dans la brève typologie que je vous ai donnée il y a quelques minutes. D'où on ne fera pas de théologie sans être attentif au contexte, au pluriel, et en faisant l'effort d'une compréhension raisonnable du moment historique actuel pour penser la foi chrétienne. Alors quand je dis d'une compréhension raisonnable, je veux bien dire aussi d'une compréhension qui ne va pas être idéologique, trop idéologique en tous les cas, ni trop naïve, ni trop polémique, ce qui me paraît être une manière assez difficile d'analyser le moment présent. Je suis au bout de mon exposé. Je vais arrêter le partage. Voilà. Alors, c'est bien évident que vous avez plein de questions. Soit d'explication, soit parce que tel point n'est pas clair ou a été trop vite dit, soit de discussion, pas d'accord ou est-ce qu'on peut approfondir, mais que là, il nous reste 2 minutes. Donc, je vous propose de prendre le temps d'y réfléchir, peut-être d'écrire un petit quelque chose, de le mettre par écrit, ça aide toujours, hein, de se dire, tiens, qu'est-ce que je retiens de cette heure, de cette première étape et de cette heure? Et alors, quels points ne sont pas clairs? Voilà. Et quelles questions je pourrais poser? Quels points je pourrais débattre? Ou quels points? Ah oui, j'avais jamais pensé à ça, c'est très intéressant. Et ça, on commencera comme ça lundi prochain, avec ça, avec ce que vous apporterez comme réaction, commentaire, question, interrogation. Lié évidemment aux propos d'aujourd'hui, hein, bien sûr de ce soir, enfin de la deuxième partie. Stéphanie, vous voulez réagir peut-être? Non?
C'est juste pour dire que j'étais complètement d'accord, parce qu'on a
Complètement d'accord.
besoin quand même d'intérioriser, d'assimiler, de pouvoir revenir vers
Voilà.
vous avec. Oui.
Voilà. D'accord. OK. Merci. Oui, c'est ça. Je pense que, bon, ça a été. Je voulais faire le parcours, hein, donc je n'ai pas trop répété ni trop traîné sur cette deuxième heure. Donc effectivement, il faut un peu le intérioriser, digérer. Relire les textes bibliques aussi, c'est toujours intéressant. Voilà.
Moi, j'ai une question.
Oui, allez-y,
En
Marie-Hélène.
fait, Élie, quand il... En fait, c'est lui qui cherche. C'est lui qui demande. Et à ce moment-là, il a la réponse.
Ouais, il fait pas rien. Alors, la première chose qu'il fait, c'est de manger.
Oui, non, mais quand il le supplie, quand il le supplie, il dit, maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères.
Il
Alors,
dit, je veux mourir. Cette phrase-là, ça veut dire, je veux mourir, j'en peux
Ok.
plus.
Donc, ça veut dire qu'il faut, avant d'aller à sa rencontre, il faut l'appeler.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en tous les cas, moi, je dirais, le premier geste positif, on va dire, hein, que fait Élie dans ce récit, c'est d'accepter de manger. Parce que si vraiment il dit « je veux mourir », comme vous le notez au verset 4, 4b, bah meurs, bah fini, quoi. Je veux dire, si c'est ton choix, fais-le, mais en mangeant, en buvant,
C'est l'acceptation de ne pas mourir.
de ne pas mourir. C'est même plus qu'une acceptation, c'est la décision de ne pas mourir. Après, la question, ça va être, alors qu'il est dans la violence, hein, vous avez compris, les autels ont été renversés, les prophètes ont été tués, donc il est dans la violence complète, il s'est un peu échappé, mais il y est quand même, quel Dieu va-t-il rencontrer? Un Dieu violent, ouragan, tremblement de terre, feu? Ou est-ce que la révélation, là on est au cœur du mot, hein, là, ce qui va se révéler de Dieu, c'est que justement, il n'est pas dans la violence, il n'est dans aucune violence, mais il est dans la discrétion la plus extrême, et comme je le disais tout à l'heure, qu'on peut ne pas voir. L'extrême, je trouve, de ce récit, c'est que le fin bruit de silence, ou le bruit de fin silence, qui est la manifestation de Dieu, c'est très clair, puisque Élie se cache le visage, enfin, très clair que c'est là, exprime que Dieu se manifeste jusqu'au point qu'on ne le voit pas, ou qu'on ne l'entende pas. Mais là, ah, ça doit un peu nous couper le souffle quand même.
Oui, mais j'insiste quand même sur le... En fait, c'est pas vraiment Dieu qui se manifeste, c'est Élie qui l'appelle et il répond.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une manifestation de lui-même ou est-ce que c'est une réponse à l'appel d'Élie? C'est quand même un sujet.
On peut garder la question. Vous avez raison. Vous avez
Voilà.
raison. On n'est pas, attention, hein, juste, mais vraiment, vous avez raison dans votre question. Vraiment, c'est la première chose que je veux dire. Mais il faut aussi resituer cela. On n'est pas dans un... Là, pour le coup, tiens, parlons de contexte. On n'est pas dans un contexte athée, hein, c'est-à-dire où il n'y a pas de raison de parler de Dieu, quoi.
Oui.
Là, on est dans un contexte religieux. Donc, son expression de « j'en peux plus, je veux mourir » s'exprime effectivement « maintenant, Seigneur, c'en est trop ». Donc, Seigneur, hein, il s'adresse bien à Dieu, de ce fait-là. Mais c'est un contexte religieux où, entre guillemets, tout le monde s'adresse à Dieu. Donc, il faut pas trop vite le glisser dans notre contexte contemporain où s'adresser à Dieu est tout sauf évident aujourd'hui. Enfin, culturellement, hein, j'entends. Après, individuellement, c'est autre chose. Mais culturellement. Mais vous avez raison. Il y a aussi cet appel qui est laisse-moi mourir. Toi, le Dieu de la vie, laisse-moi
Ou
mourir.
bien me sauver.
Ou alors, viens me sauver. Ou alors, et d'ailleurs, le pain et l'eau, c'est le salut. Enfin, c'est comme ça qu'il ne meurt pas. Oui, tout à fait. Merci, merci
Merci.
beaucoup. Alors voilà, prenons, bon, 22h03, il faut essayer d'être, même si on est tous à la maison, il faut essayer d'être quand même à l'heure. Prenez le temps, à votre convenance, hein, de relire les papiers, d'avoir les... Je mettrai à disposition ce que j'ai surligné, hein, donc Hélène vous le déposera, je pense, si ce n'est ce soir, demain, sur le site. Donc si vous voulez retrouver les choses surlignées, vous les retrouverez comme ça. Et puis on prendra un petit moment en début de séance prochaine, de lundi prochain, ben justement pour poursuivre la conversation comme elle vient d'être engagée par Marie-Hélène. sur des points qui vous auront frappé ou attiré votre attention ou qui vous questionneront.
Et merci beaucoup.
Merci à vous, merci de votre écoute. Bonne fin de soirée, bonne nuit peut-être même. À ce stade-là, c'est plutôt bonne nuit.
Merci
Bonne semaine à
beaucoup.
tous, merci Stéphanie, bonne semaine.
Merci.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup, bonsoir.
Bonsoir.
Merci infiniment.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Merci, bonsoir.
Au revoir, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup, bonsoir.
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 Bonsoir, Maëlla. Tiana. Je dis mal votre nom, pardon. Hein. Maëlla,
oui.
Tiana. Je vais y arriver. Prochaine fois, j'arrive. Bonsoir.
Bonsoir.